Dans cet épisode spécial de Guérir Ensemble, nous aborderons les défis spécifiques rencontrés par les personnes croyantes lorsqu'elles envisagent de débuter une thérapie. En tant qu'hôtesse de ce podcast, je serai accompagnée d'une psychologue chrétienne expérimentée. Ensemble, on va démystifier le processus de la thérapie et on discutera de la manière dont la foi et la santé mentale peuvent se compléter harmonieusement. Nous offrirons des perspectives sur ce à quoi s'attendre lors d'une première consultation et comment les croyances chrétiennes peuvent influencer, mais aussi enrichir le parcours thérapeutique. Cet épisode est une invitation à comprendre et à lever les barrières pour une approche holistique de la guérison en intégrant la foi et le bien-être mental. Donc, on va commencer cet épisode. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre une tasse de votre breuvage préféré. Notre invitée pour l'épisode s'appelle Marianne Milia de Malvoisine. Elle est psychologue clinicienne. Marianne, je suis vraiment ravie, vraiment honorée de te recevoir aujourd'hui et je suis très contente que tu aies accepté de participer à cet épisode de manière si spontanée. Alors Marianne, je te laisserai te présenter et nous dire également si tu as comment tu as cheminé pour devenir aujourd'hui psychologue clinicienne et si tu as une appétence particulière pour une pratique ou une orientation de la psychologie.
Merci, bonjour Jessica, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très, très heureuse aussi et honorée que tu m'aies proposé de participer à ce podcast. Alors moi j'ai un parcours plutôt atypique pour une psychologue. Moi j'ai été infirmière avant en fait pendant une bonne quinzaine d'années et c'est pendant ma carrière, au fil de ma carrière, j'étais en poste dans un hôpital de jour en pédopsychiatrie où j'ai eu le déclic de vouloir reprendre des études parce que j'avais envie d'avoir plus de matière théorique en fait avec les patients et puis j'ai cheminé comme ça. J'ai appris des études à distance à Paris 8. Je fais la pub parce qu'en fait c'est la seule université et on peut faire toutes ces études de psychologie, de la licence au master 2. C'est la seule fac où on peut tout faire à distance. Donc c'est pour ça que je la mets en avant. Donc moi j'ai une approche intégrative et interculturelle, c'est-à-dire que je n'ai pas une seule théorie pour aborder le champ psychologique et psychiatrique. Je me sers de différents courants théoriques que j'ai pu étudier. Et puis le versant interculturel, c'est que je suis très attachée et aussi parce que j'ai eu le privilège de pouvoir beaucoup voyager, notamment en mission humanitaire. Et donc, pour moi, c'est important d'accueillir l'autre avec tout ce qu'il est. Sa langue, sa culture, sa foi, ses traditions. Même si on ne parle pas forcément la langue qu'il parle, mais pour moi, c'est primordial d'entrer dans son monde, en fait. Pouvoir mieux l'accompagner, mieux le comprendre.
Merci beaucoup pour cette contextualisation te concernant. Alors, avant de plonger dans le cœur de notre sujet du jour, j'aimerais faire deux petits détours, et pas des moindres à mon sens. Le premier détour va me permettre d'évoquer et même de lire un passage du livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Psychothérapie de Dieu ». Pour rappel, Boris Cyrulnik est un éminent neuropsychiatre et psychanalyste français. Et dans son livre, il explore l'interaction complexe entre la foi et la spiritualité et la guérison psychologique également. L'ouvrage se penche sur comment la croyance en une entité supérieure ou la spiritualité peut jouer un rôle dans le processus thérapeutique et contribuer à la résilience des individus face aux traumatismes et aux épreuves de la vie. Alors, c'est un livre d'une richesse incroyable et j'ai envie de vous lire un passage qui se trouve à l'avant-propos. C'est un passage qui introduit justement les prémices de l'enquête qui a donné lieu en fait à la naissance de ce livre. Et c'est une anecdote qui m'a beaucoup plu. Donc je vais vous la lire. Donc, six petits vieux âgés de 12 ans, avaient été des enfants soldats. Ils avaient vu la mort, l'avaient côtoyée et peut-être même donnée. Ces enfants avaient vieilli d'un seul coup. En quelques mois, les rides du souci avaient barré leur front. Leurs yeux ne riaient plus et leurs mâchoires serrées durcissaient leur visage. Un petit vieux souriant, avec des fossettes dans les joues, m'a dit que la guerre du Congo était terminée et qu'il voulait maintenant devenir footballeur ou chauffeur d'une de ces magnifiques voitures que possédaient les ONG de Goma. Il ressemblait à mon petit-fils, sauf qu'il avait la peau noire. Un autre petit vieux m'a demandé de lui expliquer pourquoi il ne se sentait bien qu'à l'église. Je vois sans cesse des images qui font peur. Dès que je rentre dans une église, je vois de belles choses. Les petits vieux tristes approuvaient, ce qui amusait beaucoup le footballeur chauffeur. J'ai été incapable de répondre. J'ai vu la déception de ces enfants meurtris. Je les ai abandonnés dans leur souffrance. Je n'ai pas su leur expliquer pourquoi le fait d'entrer dans une église pouvait soigner un traumatisme, apaiser une angoisse et effacer les images d'horreur. Donc, après cette anecdote, je trouve pertinent de faire un deuxième détour et d'évoquer le sujet de la différence entre la spiritualité et la religion. Je trouve que c'est un point que beaucoup de gens mélangent, alors qu'en fait, c'est comme comparer des pommes et des oranges. C'est bien deux choses tout à fait distinctes. La spiritualité et la religion sont vraiment des concepts qui sont connectés, mais qui répondent à des aspirations humaines de manière bien différente. On peut commencer par parler de la religion. Alors moi, j'aime bien ce qu'en dit Frédéric Lenoir, qui est un mec plutôt bien calé sur le sujet, puisqu'il est philosophe, sociologue et historien des religions. Et il nous dit que la religion, c'est tout ce truc organisé avec des règles, des livres sacrés, des lieux de culte, où des gens se rassemblent pour partager la même croyance. Pour vulgariser le propos, c'est un peu comme un club avec ses propres traditions et ses chefs, parce qu'il y a quand même une hiérarchie dans l'organisation des religions. Maintenant, à contrario, la spiritualité, c'est une autre paire de manches, dans le sens où c'est un concept beaucoup plus personnel. C'est un peu cette petite voix intérieure qui te guide, qui guide ta quête à trouver un sens à la vie, à te sentir connecté à quelque chose de plus grand, que ce soit du divin, que ce soit de l'ordre de la nature, de l'univers, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'univers par un peu par certaines personnes. Et la spiritualité ne rentre pas nécessairement dans une tradition ou une institution religieuse spécifique. Et justement, elle est caractérisée par le fait que ce soit une démarche individuelle qui nous laisse libres, finalement, et dans laquelle on peut pratiquer, on peut pratiquer la méditation, la contemplation, l'art ou même la philosophie. Ce que la spiritualité a de différent à la religion, c'est qu'elle est plus fluide dans le sens où elle ne se limite pas à des croyances et à des pratiques instituées, enfin, ou rigides. Elle est souvent décrite comme étant guidée par une expérience personnelle d'introspection. Donc, elle n'est pas cadrée. Donc, en gros, la religion, c'est l'organisation, la communauté, les traditions. Et la spiritualité, c'est plus une aventure personnelle, intime, où la liberté de chercher et de trouver ce qui résonne en soi, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était un point important. Et on va évidemment plonger dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça qu'on est là. Et sur cette partie 1, on va commencer par parler des freins et des mythes sur la thérapie que les croyants peuvent avoir, de toutes les idées fausses, de toutes les craintes qui sont liées à la thérapie dans les communautés de personnes croyantes. Et ma première question, Marianne, ça va être quelles sont les idées fausses, à ton avis, les plus répandues sur la thérapie au sein des religions monothéistes et comment ces croyances peuvent-elles dissuader les gens de chercher de l'aide chez un psychologue?
Merci Jessica. Alors, dans le, on va dire, hit parade des idées fausses qui peuvent circuler, ça va être par exemple que tu as péché. Donc, tu as péché, donc c'est de ta faute ce qui t'arrive. Tu manques de foi. Tu es faible parce que comme tu crois, Dieu est avec toi. Donc, si tu crois en Dieu, tu ne devrais pas être malade. En fait, tu devrais ne rien avoir. Donc, on t'a certainement jeté un sort. Donc, on va te faire une prière de délivrance, puisque ça doit être ça, en fait. Donc, c'est beaucoup ça. On culpabilise beaucoup, en fait, les gens qui peuvent traverser des difficultés psychiques. Beaucoup plus que si elles vont se casser une jambe ou elles vont avoir un accident physique. Dès que c'est psychique, il y a comme une mise en doute de ce que la personne peut ressentir. Mais non, mais t'es sûr, c'est peut-être que t'es fatigué. Il y a ça quand même dans ce que je peux, dans ce que j'ai pu voir hein, et entendre. Il y a cette idée que c'est forcément souvent de ta faute, ou alors c'est des circonstances extérieures qui t'ont mis comme ça. Mais finalement, t'es pas forcément pris au sérieux, en fait.
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Je rebondis d'ailleurs sur mon expérience personnelle. Moi, enfin, à un moment donné, j'ai vécu la perte de ma petite fille. Et donc, j'étais en deuil, hein, évidemment. Mais voilà, j'avais du mal à surmonter mon deuil. Et c'est vrai que je me suis confiée à des proches qui m'ont dit... écoute, Jessica, redouble de prières, en fait. Si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu ne pries pas assez, parce que tu devrais prier plus, etc. Et moi, j'avais parlé à une des personnes, j'avais parlé mon choix, enfin, mon souhait de consulter un psychologue spécialisé dans le deuil périnatal. Et la personne... était très très choquée de ce que j'étais en train de dire, hein, puisque du coup, elle est en train de me dire de prier davantage, et moi, je lui disais que j'allais consulter, et donc pour elle, c'était effectivement un aveu de foi enfin de faiblesse spirituelle, finalement. C'est un signe de faiblesse spirituelle, et heureusement, donc j'ai fait fi de ces injonctions. À la prière et à redoubler de prière, même si j'ai continué à prier. Hein. Mais c'est pour dire que dans tous les cas, j'ai continué à prier, mais je suis allée voir la psychologue spécialisée et j'ai commencé à cheminer vers un processus de deuil. J'ai commencé à cheminer dans ce qui était ma réalité à l'époque. Mais oui, je comprends tout à fait le propos de l'idée fausse sur la faiblesse spirituelle et des personnes qui peuvent effectivement faire culpabiliser d'autres personnes avec ces arguments-là. Ouais.
Ah oui, puis je voulais quand même préciser qu'on peut voir un psychologue, même si on n'a pas de grande souffrance. On peut voir un psychologue pour avoir un soutien psychologique ponctuel, pour l'aide à la prise de décision, pour des reconversions professionnelles, pour mieux se connaître, pour travailler sur le transgénérationnel. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut aller voir un psychologue. On n'est pas obligé d'aller très mal ou de souffrir pour aller voir un psychologue.
C'est important de le dire. Merci, merci beaucoup, Marianne. Je pense que c'est très, très important de le dire, de pas attendre d'être. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre d'être en crise pour aller voir un psychologue. On peut aller bien et voir un psychologue sur des sujets particuliers, effectivement. Et même, on peut faire. Enfin, moi, enfin, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est faire chaque année, même si j'ai pas de sujet particulier, je vais quand même chez mon psychologue pour faire comme un petit bilan en fait, comme je ferai un bilan avec mon médecin traitant. Et je trouve ça, enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire et que je conseille aussi, hein, si, même s'il n'y a pas de sujet, effectivement, prendre son rendez-vous avec son psychologue, ça peut. Et ça peut parfois révéler peut-être des sujets sur lesquels on pourrait approfondir pour mieux appréhender le sujet en question, etc., etc. Donc voilà.
Bah, ça fait un peu écho ce que tu dis. Bah, j'avais vu ça sur ton compte. Tu partageais un extrait. C'était Kerry Washington qui parlait. Et puis elle disait, ah oui, mais les gens, moi j'étais en thérapie toute ma vie. Mais les gens disent, mais comment ça se fait? Et elle dit que non, en fait, elle, pour elle, c'est une aide et que ça l'aide justement. Elle prend plus le psychologue comme un préparateur mental, en fait.
Ouais,
Donc
exactement.
elle a une autre approche de ce que c'est que le psychologue. Et c'est vrai que peut-être en France, on n'a pas cette orientation de pensée, en fait.
Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai que j'ai trouvé ça très pertinent. C'est un peu comme, comme un, oui, un préparateur mental, comme tu dis, qui t'aide à muscler peut-être des sujets comme peut-être tiens j'ai besoin de muscler pendant tout au long. D'ailleurs, l'estime de soi par exemple c'est un muscle qu'on a besoin entre guillemets de muscler tout au long de la vie. Donc on pourrait par exemple voir régulièrement son thérapeute par rapport à ce sujet-là et l'entretenir comme ça pendant un moment en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a tout un paradigme en fait peut-être à retourner sur le sujet pour que ce soit pas juste on va voir un psy quand ça va mal et quand on est vraiment au fond du gouffre alors que on peut voir un psy même quand on n'est pas au fond du gouffre et pour aller mieux et pour s'entretenir etc.
C'est ça.
Et donc oui, donc on était en train de dire que on parlait des idées fausses qui empêchent les personnes de consulter. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que parfois, enfin, je rajoute un petit peu à chaque fois mon expérience, mais c'est vrai que pour le coup, je suis issue d'un milieu chrétien et j'ai malheureusement entendu beaucoup, beaucoup de choses pour empêcher les personnes de faire des suivis thérapeutiques. Moi, enfin, j'avais un ami qui me disait que en allant voir un psychologue ou un coach ou un thérapeute, en tout cas des personnes qui peuvent t'aider sur des. Enfin, lui, il me disait des personnes qui t'aident sur des problématiques relatives à un développement personnel, au fait de s'auto-explorer. Ben en fait, ça, il me disait, c'est en contradiction avec les valeurs chrétiennes qui sont centrés sur l'humilité, le dévouement à Dieu. Et que, en tant que chrétien, on n'est pas censé vouloir se développer personnellement, en fait. Et à l'époque, je ne savais pas quoi dire à ça, en fait. Je me suis dit, mais ça m'a questionné. Ça m'a questionné parce qu'il a parlé d'humilité. Et c'est vrai que ça faisait partie de mes valeurs, en fait, de mes valeurs en tant que chrétienne. Et je trouve qu'en réalité, cette croyance peut vraiment empêcher de chercher de l'aide. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette croyance-là et que c'est une des croyances les plus importantes, je trouve, chez les personnes croyantes.
Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi je voulais vraiment insister, et de toute façon les personnes qui vont l'écouter ne peuvent qu'acquiescer, on est dans un monde de péché, on est dans un monde de souffrance. Voilà, peu importe quelle religion on a, on sait qu'on est dans un monde, vous prenez, voilà, pour les chrétiens, bon, bah, c'est... C'est l'arrivée, c'est Lucifer qui s'est rebellé et donc il est devenu Satan et le péché est entré dans le monde. Pour d'autres religions, ça va être autre chose, mais il y a toujours ce fondement qu'avant c'était mieux, il y a eu un événement et depuis on est dans un monde qui souffre. Donc personne n'est immunisé contre ça. On ne l'a pas voulu, on est dans ce monde-là, on est sur Terre et on est tous touchés d'une façon ou d'une autre. Par des souffrances, par des maladies, etc. Maintenant, moi, la question, ce qu'on peut toujours répondre, c'est toujours un peu pareil, c'est quand tu as mal quelque part physiquement, tu vas consulter. Tu vas avoir mal aux oreilles, tu vas avoir un médecin ORL. Tu as un problème dans ton cerveau, tu vas avoir un neurologue. Tu as un problème au niveau de ton appareil intime, tu vas voir un gynécologue. Donc pourquoi, quand tu as quelque chose de psychique, tu ne vas pas consulter? Il y a aussi là, c'est pas le sujet de l'émission, on pourrait refaire une autre émission. C'est le regard qu'on a aussi sur les traitements psychotropes. Le fait de prendre un traitement psychotrope, ça peut être considéré comme une faiblesse. C'est compliqué. Les gens, comme tu disais, mais il y a des. C'est une réalité d'entendre des voix, c'est une réalité d'avoir des hallucinations. Il y a aussi, je pense, qu'il faut aussi distinguer la possession de la pathologie mentale, de la schizophrénie, de la psychose, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que je pense que Dieu, bon, moi, je suis chrétienne, hein, donc voilà, je pense que Dieu nous a donné des facultés pour aider notre prochain. Donc maintenant, c'est comme tout, il nous a donné le libre arbitre. Donc il y a une façon bonne de faire les choses, une façon moins bonne, si tu veux. Donc quand tu vas pour faire un travail, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu mets derrière aussi. Si c'est consulter parce que tu sais que Dieu t'a donné des dons et des talents et que tu vois que tu es bridé par une peur, par comme tu disais, le manque de confiance en toi. Quand tu n'as pas été aimé par tes parents, quand tu n'as pas été valorisé, mais comment tu fais pour trouver tout ça en toi s'il n'y a personne qui t'aide, si personne t'a dit, mais Jessica, t'es belle, Jessica, t'es intelligente, Jessica, t'as fait ça, ça, ça. Si personne te le dit, comment tu fais pour atteindre ça? Il faut que tu aies de l'aide. Donc,
Tout à fait.
comme ça fait la transition avec la deuxième partie, complémentarité de la foi, de la thérapie. Ce n'est pas en opposition. Ce n'est pas parce qu'on consulte à un moment donné de sa vie un psychologue qu'on trahit sa foi. C'est une
Effectivement.
aide, en fait. C'est un complément pour vivre pleinement, en fait, sa vie. Et si tu vis pleinement ta vie, tu vis pleinement ta foi en ton Dieu et tu vis pleinement la chose et tu vas mieux. Je pense qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. C'est pas trahir Dieu que de vouloir aller mieux. Alors bien sûr, la Bible, alors là je vais parler de la Bible, votre écrit de référence sacré, il y a des versets, il y a des sourates, des choses pour aller bien, mais on sait que ça suffit pas. Des fois, si ça suffisait, ben, il n'y aurait pas de maladie mentale, on ne serait pas là. Parce qu'on est dans un monde qui va pas bien. Donc il faut toujours se rappeler où on est, je pense.
Merci, merci Marianne pour ce point. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, c'est important d'éduquer et de sensibiliser, même si depuis la Covid, il y a quand même une vraie démocratisation du fait de la santé mentale dans le monde, globalement. Je pense que c'est aussi important de sensibiliser au sein des communautés. Religieuses, les communautés chrétiennes, musulmanes, orthodoxes, etc. Et de parler de l'importance de la thérapie au sein même des congrégations, en fait. Moi, je trouve que les leaders religieux peuvent jouer un rôle important en parlant ouvertement de ce sujet-là. Les anciens, les pasteurs, les prêtres, les imams. Peut-être que ça peut partir aussi d'eux, le fait de s'ouvrir sur le sujet de la thérapie. Je pense aussi que c'est important enfin, moi, je sais que j'ai mon église en Guadeloupe organise maintenant de plus en plus des ateliers ou des séminaires sur la santé mentale et que sur la radio, notre radio religieuse, on parle beaucoup on démystifie beaucoup la thérapie de plus en plus. On parle de plus en plus des approches holistiques pour prendre soin de sa santé à la fois spirituelle et mentale. Et je trouve qu'il y a quand même de belles avancées.
Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord, d'autant plus que ce sont des avancées qu'on retrouve dans différentes confessions religieuses. Parce que je regarde sur Instagram, et ben, il y a des psychologues musulmanes, il y a des psychologues chrétiens ou chrétiennes. Donc voilà, dans tous les courants, je trouve que la parole s'est libérée. Et ce qui est bien maintenant avec les réseaux sociaux, Internet, c'est qu'on peut trouver un psychologue qui nous ressemble, un psychologue qui partage les mêmes valeurs, ce qui n'était pas forcément évident avant. Avant, tu prenais ton bottin. Pour ceux qui sont nés avant 2000, tu prenais ton bottin, tu ne savais pas à quoi la personne ressemblait, tu téléphonais et voilà. Là, maintenant, il y a quand même plus de diversité dans le fait qu'on peut voir, voilà, on peut voir que maintenant, il y a des psychologues de différentes origines et ça, c'est bien.
Oui, bah, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où les gens ont envie de consulter souvent des thérapeutes qui leur ressemblent sur plusieurs aspects. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de... Il y a de plus en plus de listes, même, de thérapeutes sur plusieurs types de sujets. Hein, mais des listes par thématique qui permet aux gens de s'orienter, de se dire, ah ok, moi, c'est vrai que je peux consulter un thérapeute chrétien, par exemple. Ça va me bénéficier davantage parce que je pourrais parler de ma foi sans avoir peur qu'on me juge, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une barrière importante à lever chez certaines personnes. Même si toutes les personnes qui sont pratiquantes ou croyantes n'ont pas forcément le besoin de consulter un thérapeute qui soit dans cette dynamique-là, mais il y a une grande partie des gens, moi, avec lesquels je parle, qui ont ce besoin de consulter un thérapeute qui sont sur la même vibe, si on peut dire ça comme ça.
Et des fois, c'est parce que justement, précédemment, ils ont consulté des thérapeutes qui n'avaient pas la même culture ou la même foi, et ça les a freinés aussi dans ce qu'ils pouvaient traverser. Juste, je veux dire au fait que, bah, est-ce que tu as la foi, est-ce que tu ne devrais pas consulter puisque tu as Dieu dans ta vie? L'anecdote de l'histoire que je raconte pas très bien de l'homme avec l'inondation, où le monsieur est inondé. Il est sur le toit et il prie Dieu pour avoir du secours. Alors, il y a un canot qui vient, il dit non, non, Dieu va me secourir. Après, il y a un hélicoptère. Enfin, voilà. Et puis, bon, il finit par décéder. Et donc, il arrive, bon, c'est une histoire, il arrive au paradis. Et puis, il dit à Dieu, mais tu ne m'as pas sauvé. Et puis Dieu lui dit, mais je t'ai envoyé le canot, je t'ai envoyé telle et telle et telle personne. Donc des fois, Dieu envoie des personnes pour nous aider. La réponse n'est pas forcément que Dieu te parle et que il te donne la solution. Des fois, Dieu passe par d'autres personnes pour que tu ailles mieux, en fait.
Non, parfaitement. Et dis-moi, Marianne, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la foi peut jouer un rôle positif et enrichissant dans le processus thérapeutique?
Alors, on sait, hein, il y a eu des études, bon, je n'ai pas de référence là, mais ça se trouve facilement, quand on analyse les images du cerveau de personnes qui prient et de personnes qui ne prient pas, on voit que dans le cerveau, il y a des zones qui s'activent, qui sont positives. Et on le sait que, voilà, on sait que la foi, l'espoir, la foi engendre l'espoir. On sait que ça a une importance dans le processus de guérison, qu'à diagnostic égal, des personnes ne vont pas forcément évoluer pareil. soit parce qu'elles n'ont pas ce système social à côté, un support, et parce qu'elles n'ont pas d'espoir, de croyance positive. N'importe quelle religion amène de l'espoir, de toute façon. Donc, comme je disais, c'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire parce que la personne qui a une foi, elle a forcément l'espoir de vouloir aller mieux, l'espoir qu'il y a une possibilité qu'elle aille mieux parce qu'elle croit en un Dieu qui est tout-puissant. Ce que n'a pas forcément la personne athée,
C'est vrai,
qui, elle,
c'est
va
vrai.
se raccrocher à des choses pratico-terrestres, quoi, des choses. Ouais, faudrait questionner une personne athée, à quoi elle s'accroche, mais quelqu'un qui a la foi, forcément, il sait qu'il y a un Dieu au-dessus de lui et qu'il va pouvoir s'appuyer sur lui aussi. Qu'il est
Ouais.
là, même si, bon, bah, souvent, on peut avoir des hauts et des bas dans notre foi, mais on sait que Dieu est là quand même. On sait qu'il est là et on sait qu'on a la possibilité de revenir vers lui et qu'il nous aide à vivre ce qu'on traverse. Que la
Non,
personne athée
parfaitement.
n'a pas fort, n'a, la personne athée doit trouver d'autres supports, en fait, pour vivre ce qu'elle vit.
Oui, je suis d'accord. Parce que je trouve que pour de nombreuses personnes qui ont la foi, savoir que elles sont soutenues non seulement par leur thérapeute, mais par Dieu, ça renforce leur espoir et ça renforce le fait de se dire. Je m'appuie sur un Dieu pour guérir. Et c'est vrai que je pense que, mine de rien, ce sentiment d'espoir, ça t'aide à aller au-delà de tes forces, ça active ta résilience, en fait. Et je pense que, oui, bah, je pense que la foi, c'est un décup. Comment on peut dire ça? C'est un catalyseur de guérison, en fait. Hein. Et en plus, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au cerveau. Effectivement, j'avais écouté un podcast sur lequel j'ai entendu Boris Cyrulnik, et il avait évoqué effectivement des études et des observations assez intéressantes sur la manière dont la prière active le système de récompense du cerveau. Et en fait, c'est une étude qui a révélé que les expériences religieuses et spirituelles, ça a le même effet que l'amour, le sexe, le jeu ou les drogues, et que ça, comment dire, que les résultats de ces de l'activation dans le cerveau, c'est comme un shoot en fait, c'est comme un shoot, et effectivement. Ça indique que la pratique de la méditation ou de la prière stimule des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, et mine de rien, ce sont des catalyseurs pour aller mieux, pour guérir. Et donc, y a, même si aujourd'hui on peut avancer des choses sans avoir forcément de correspondance scientifique. Sur ce sujet-là, il y a une vraie correspondance scientifique qui valide cela. Et je trouve que voilà, les gens qui seraient sceptiques, en tout cas, sur le sujet et qui seraient très science, peuvent au moins avoir l'idée que le rôle de la prière et des croyances sur la santé mentale est indéniable, en fait. Et donc, tout cela nous amène à un point très, très, très important un point très important, pardon, de cet épisode. C'est celui de se dire, OK, une fois qu'on a passé tous nos freins, qu'on s'est dit, OK, maintenant, j'ai compris les pratiques thérapeutiques peuvent comment ça peut m'aider, comment je peux les utiliser comme des outils de guérison. Voilà, j'ai plus de résistance par rapport à ça. Donc, comment comment, qui est-ce que je vais consulter et à quoi je peux m'attendre lors d'une première consultation, en fait. Comment je peux aussi éventuellement aborder mes croyances chrétiennes avec un thérapeute. Donc, enfin, alors ma première question, c'est à quoi doit-on s'attendre lors d'une première séance de thérapie?
Alors, quel que soit le psychologue que vous allez choisir, la première séance de psychothérapie, elle est dédiée à ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire qu'on le psychologue va prendre le temps de vous interroger sur ce qui vous amène, sur les symptômes, s'il y en a, quand est-ce qu'ils sont apparus. On va vous demander votre situation conjugale, familiale, on va explorer votre histoire de vie, on va, après quand tout ça c'est fait, on va réfléchir à ce qui pourrait vous aider à aller mieux. Donc la première séance, en général, elle est plus, enfin ça dépend des psychologues, mais il faut une bonne heure hein, pour déterminer tout ça en fait. Hein. C'est un peu pour... comme si c'est un terrain en friche et en fait l'anamnèse va servir à défricher ce pourquoi vous êtes là en fait. Donc il faut que vous attendiez à ce qu'on vous pose quand même pas mal de questions la première séance, voilà. Alors ça fait un peu interrogatoire, mais c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin va vous poser pas mal de questions pour avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui vous amène. Donc c'est important aussi que vous sachiez que, là je le dis parce que j'ai déjà eu l'expérience et je l'ai déjà entendu, si vous sentez que ça colle pas, que vraiment ça passe pas avec la personne, ben ne revenez pas, c'est pas grave, on va pas le prendre personnellement. J'avais entendu hein, d'une autre psychologue que en moyenne, ben, il faut voir 6 ou 7 psychologues pour trouver le bon. Donc si ça ne colle pas, bah, ça arrive, c'est pas grave, voilà. Il faut pas vous forcer si déjà dès la première séance ça passe pas, parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance thérapeutique pour qu'il y ait une efficacité dans la psychothérapie. Donc si déjà dès le premier rendez-vous la personne ne vous plaît pas, n'insistez pas. Votre obligation en fait, vous en tant que client ou patient, c'est de payer, en fait. C'est de régler votre séance. Il n'y a pas d'autre obligation, en fait. Alors, bien sûr, si après, vous vous engagez avec le psychologue, il va vous définir le cadre dans lequel il exerce. Il y a des psychologues, bon, la plupart, si vous ne vous présentez pas, il va facturer la séance parce que il faut annuler, c'est bien annulé 2 jours avant ou un jour avant. Donc, c'est vrai que si vous annulez le même jour, la plupart facturent. Donc, il va vous présenter son cadre, ses tarifs, les conditions, etc. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui. Si ça passe pas dès le premier rendez-vous, voilà. Si vous ne revenez pas, ne revenez pas. Par contre, je tiens aussi à souligner que quand vous allez commencer votre thérapie, donc au début, ben, souvent, ça peut démarrer fort. Enfin, ça dépend, en fait. Ça peut démarrer fort. On sent qu'il y a des choses qui bougent et tout. Mais forcément, à un moment dans la thérapie, ça va devenir peut-être inconfortable pour vous, ça va être difficile d'y aller, vous n'aurez pas envie d'y aller. Mais il faut continuer. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce qui vous arrive, il ne faut pas lâcher en fait. Il y a des moments dans la thérapie où on n'a pas envie d'y aller et c'est normal. Voilà. Vous sachez que c'est normal. C'est jamais linéaire. Hein. Des fois, on sent qu'on progresse, des fois, on sent qu'il ne se passe rien, des fois, ça revient. Donc, il faut l'avoir en tête, en fait. C'est ça. Il faut l'avoir en tête que ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Bon, de toute façon, votre psychologue, en général, on va du problème le plus simple au plus compliqué. On ne commence pas par les choses difficiles. Donc forcément, quand plus vous allez avancer, si vous avez vraiment des grosses difficultés, ben forcément, ça va être plus difficile. Mais au fur et à mesure, il vous équipera pour pouvoir surmonter ça, en fait. Parce que n'oubliez pas que moi, c'est ce que j'aime à dire aux patients, c'est un cheminement où vous n'êtes pas seul. L'intérêt, c'est ça, c'est que vous faites appel à quelqu'un pour vous aider à traverser des choses. Donc, vous n'êtes pas seul dans le processus. Et après, selon le cadre qu'on vous présente, des fois, c'est possible de rapprocher les séances, de les espacer. Tout ça, ça se discute justement lors du premier échange, hein. Vous êtes autorisé et je vous invite à poser des questions avec la personne à laquelle vous voulez travailler. C'est important. Vous pouvez lui demander où est-ce qu'il a fait ses études, où est-ce qu'il a travaillé. C'est important de faire cette recherche-là. Et donc, je tenais à dire, puisque par rapport à la dernière fois, c'était parlé Jessica, j'ai créé un outil pour vous aider à faire ce cheminement. Donc, restez connectés, comme on dit. Allez sur ma page Instagram et vous verrez. C'est un, comme on appelle, un freebie. Il faudra juste voilà, envoyer votre adresse mail. J'ai créé un outil pour vous aider à faire ce travail
Excellent.
de chercher un psychologue.
Ah, c'est super ça. Non, mais puisque c'est vraiment important, je pense, d'avoir ça en tête, de se dire qu'on peut être exigeant et poser des questions au psychologue sur son orientation, c'est sa pratique en fait, l'orientation de sa pratique, sur son diplôme, sa spécialisation, etc., etc. Parce qu'on a tendance à aller voir un professionnel et à se sentir petit, tout petit devant le professionnel et à ne pas oser poser des questions sur le statut du professionnel, sur son expérience aussi, alors que oui, on peut et on a tout à fait le droit de poser ces questions-là. Et donc, merci pour la ressource. Je la partagerai sur mon compte.
Ok. Et aussi, bah, je pense que les gens le savent, je ne sais pas. On a un code de déontologie aussi qui est accessible sur Internet. Hein, si vous voulez un peu. Voilà, il y a quand même. C'est une profession qui est réglementée. Le psychologue, on a un numéro à délit, on est inscrit à l'ARS. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est bien maintenant avec Internet, c'est que beaucoup de psychologues ont un site Internet où ils exposent justement. Leur expérience, la façon dont ils travaillent. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ce travail un peu comme un détective, mais c'est pour vous, ça vous évitera de perdre votre temps et votre argent déjà, si vous savez déjà un peu comment travaille le psychologue. Si vous êtes plutôt une personne qui aime pas trop qu'on la pousse, qui aime pas trop les exercices, tout ça, ben, la TCC, ça va être compliqué. Parce que la TCC, justement, bah, c'est
Tu peux
très
préciser?
cadré, il y a des objectifs, c'est vraiment
Marianne,
tracteur de la thérapie, donc bon, voilà.
tu peux préciser ce que c'est que la TCC pour les personnes qui ne savent
Ah bah
pas?
c'est TCC, c'est l'abréviation de thérapie cognitive et comportementale, donc c'est une orientation où on va travailler avec des exercices c'est très conseillé dans tout ce qui est troubles anxieux. Attaques de panique, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, il y a vraiment de très très bons résultats. Mais c'est une façon de travailler où il faut que le patient soit vraiment acteur de. Bon, il faut être acteur de tout. N'importe quelle thérapie, il faut être acteur. Mais là, vraiment, vous avez des exercices à faire, il y a un cahier à tenir. Enfin, voilà, il faut vraiment être engagé et vous travaillez par objectif. Donc, ça va être par exemple 8 séances pour telle chose, après on réévalue, mais ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire une petite recherche avant. Bon, de toute façon, moi je conseille toujours d'appeler le psychologue rappel, comme ça le premier contact déjà vocal, ça dit déjà des choses.
Ouais, bien sûr,
Et
c'est
vous
vrai.
pouvez poser vos questions, ça évite justement de prendre rendez-vous et de voir que ça ne vous convient pas. C'est bien d'appeler quand même. Alors, c'est vrai que l'agenda électronique, c'est bien, c'est rapide et tout, mais bon, c'est bien de passer un coup de fil avant. Parce que des fois, justement, en expliquant ce qui nous arrive, le psychologue peut déjà dire oui ou non, en fait.
Ah ouais, c'est intéressant de mentionner le fait d'appeler, d'avoir un contact téléphonique. Effectivement, ça permet de poser déjà en préambule quelques questions, savoir si ça peut être pertinent de prendre rendez-vous. Ouais,
Oui,
c'est très bien.
et justement, Je voulais dire aussi aux auditeurs qu'on ne traite pas tout. Rares sont les psychologues qui traitent tout. On a aussi nos limites, on a aussi des domaines dans lesquels on n'a pas envie, où on ne connaît pas. Donc, si la personne vous dit, ben non, moi, c'est pas, je ne peux pas vous aider, ne prenez pas personnellement. On n'est pas spécialiste de tout. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne veut pas travailler avec vous. C'est qu'on a aussi des appétences pour tel domaine ou des spécialités et qu'on ne peut pas forcément tout vous traiter. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement quand le psychologue vous dit, ben non, voilà, je ne vais pas vous recevoir. Ce n'est pas lié à vous. Voilà. C'est une humilité, justement. C'est humble de reconnaître que voilà, on ne fait pas tout et que justement d'accepter tous les patients et de voilà, après se retrouver, qu'est-ce que je fais avec ce patient-là, finalement, ça ne va pas. Et puis de dire au bout de 10 séances, bah non, finalement,
Bien
j'ai
sûr.
atteint mes limites. Donc voilà, c'est vraiment à savoir.
Oui, et c'est là où c'est aussi pertinent de peut-être demander à ce psychologue-là de recommander à un confrère qui lui serait
Oui.
apte à prendre en charge ce type de demande-là. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises une personne qui a des croyances, qui est croyant, quelle serait la meilleure façon pour lui de se préparer à discuter de ses croyances avec son thérapeute? Est-ce que, je veux dire, dès le début de la. Ben, de toute façon, je pense que tu as répondu un petit peu à cette question-là tout à l'heure là. Mais est-ce que dès le début, il peut le mentionner? Ou est-ce que. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce propos?
Alors, si la personne elle est croyante et qu'elle cherche un thérapeute croyant, elle peut lui dire, moi je vous ai choisi parce que je vous ai vu sur tel répertoire. Moi je suis inscrite notamment sur un site de psychologue chrétien. Donc les gens, moi de toute façon je demande toujours aux gens comment ils m'ont trouvé puisque je suis sur des sites lambda et aussi sur un annuaire chrétien. Donc quand les gens me disent, bah, je vous ai trouvé par ce site-là, bon bah alors je sais qu'ils sont chrétiens, puis ils le disent. Hein. Il y en a qui disent, ben là c'est mon pasteur qui m'a conseillé de consulter. Donc
Ah,
dans la
génial.
conversation, ça apparaît à un moment donné, de toute façon.
D'accord. Qu'est-ce que tu. Alors, dis-moi, Marianne, toi, tu es située à dans quelle partie de la France?
Alors moi, je suis dans la région Grand Est, mais je consulte uniquement en téléconsultation. Je n'ai pas de cabinet physique. Donc, vous
Super,
pouvez m'appeler
d'accord.
de partout, ce n'est pas un souci. Ensuite, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille de façon intégrative, c'est-à-dire que je vais m'adapter aussi à ce que veut le patient, là où il en est aussi. Il y a des patients au début, ben, on va être dans de l'écoute active, dans du soutien. Et puis après, quand ça va mieux, on va pouvoir, entre guillemets, le mettre au travail. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand même donner des défis, des challenges ou des tâches aux patients, parce que c'est une façon pour le patient d'être acteur de ce qui lui arrive. Moi, j'invite toujours les patients à venir avec un carnet ou un cahier pour noter les choses, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis,
C'est bien ça.
quand je reçois des patients chrétiens, bon, moi, je reçois tout type de patients, athées ou musulmans, peu importe, hein, je ne suis pas focalisée sur les chrétiens, mais quand les personnes sont chrétiennes, on prie au début et à la fin. Et puis, évidemment, on va aussi se servir de la Bible, on va aussi se servir de ce qui nous est commun, c'est-à-dire notre foi. Donc on va pouvoir échanger là-dessus.
Super.
Je peux leur conseiller de lire certains passages bibliques, oui.
Ouais, qui va les
Même si on n'est
fortifier.
pas dans une
Super.
relation chrétienne pure avec que de la Bible, mais ça va être un des outils thérapeutiques dont je vais me servir en fait.
Excellent, excellent. D'accord. Ah ben ça, c'est intéressant à savoir. Merci de l'avoir précisé. Je pense que les personnes qui souhaiteraient bénéficier, qui sont chrétiennes ou enfin croyants, seront. Content d'avoir ce point de vue-là, enfin, dans tes séances. Alors, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de notre entretien. Quel message essentiel tu souhaiterais transmettre à nos auditeurs concernant la relation entre la foi chrétienne et la thérapie? Ce serait peut-être un message global par rapport à tout ce que tu as déjà dit, hein, évidemment, parce que tu as dit pas mal de choses sur les deux sujets.
Ben moi, je voudrais vraiment dire à nos auditeurs de ne pas culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute. Ça ne vous définit pas. La maladie mentale, la souffrance, ça peut toucher tout le monde. Ce n'est pas de votre faute. Je vous conseillerais de prier, puisqu'on s'adresse à des personnes croyantes, de prier pour être guidé dans le choix de la personne qui peut vous aider. Et je vous conseillerais de ne pas forcément, au début de votre thérapie, de ne pas forcément le dévoiler à votre entourage si vous savez déjà que vous allez avoir des remarques négatives sur votre démarche. Parce que des fois, l'entourage, par peur, en fait, va vous tenir un discours parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur que vous fassiez rouler, ils ont peur que ça sert à rien, que ça ne serve à rien, etc. Donc, si vous avez vraiment quelqu'un à l'écoute qui ne va pas vous juger, voilà, parlez-lui-en, mais moi, je ne vous conseillerais pas de le divulguer parce que ben, ça peut avoir l'effet inverse et vous allez encore vous retrouver dans ce truc, ben, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et ça peut vous freiner, en fait. Donc,
Super conseil, je trouve. Je trouve que c'est important de dire ça parce que c'est vrai que, mine de rien, et je l'ai vécu, l'entourage peut être très dissuasif sur ces sujets-là parce qu'eux-mêmes, enfin, ils font une projection sur nous aussi, de leur peur, etc. Et malheureusement, oui, ça peut nous dissuader d'y aller, nous culpabiliser, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être l'occasion au moins d'être discret sur, enfin, au début en tout cas, sur le fait qu'on consulte ou qu'on a l'intention de consulter.
Et je voulais dire aussi, hein, je ne l'ai pas dit avant, il n'y a pas de durée standard, à part si on est dans la TCC où on va partir sur un nombre de séances pour tel et tel problème, ou alors dans les psychothérapies brèves, où, bah, comme le nom l'indique, on va être sur des prises en charge plutôt courtes. On ne peut pas se dire avant, personne, aucun psy va s'engager à vous dire, ben non, en temps de séance, ça va être réglé. Non, on n'est pas devin, on n'est pas. On est sur du travail psychique, donc on ne peut pas prédire combien de temps ça va durer. Mais vous allez le sentir de toute façon. Quand on va mieux, on le sent, ça se voit, on le sait. Donc vous verrez au fur et à mesure. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un cheminement. Bah, des fois, il n'y a pas trop de chemin de traverse et c'est assez droit. Il y en a où bah, non, ils vont passer par des bois, des labyrinthes, des. Et ils vont pas aller tout de suite à la destination finale. On n'a pas tous la même façon de marcher, comme on dit. Mais vous allez y arriver. Et puis c'est aussi le rythme, hein. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des séances toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc il y a ça aussi. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez vous permettre que de consulter une fois par mois que ça sert à rien. Non, ça sert quand même. Parce que entre 2 séances, il va se passer des choses, peut-être que vous allez être avec un psychologue qui va vous donner des choses à faire entre 2 séances. Donc ne vous dites pas, ah ben, parce que c'est qu'une fois par mois, ça sert à rien. Non, c'est pas parce qu'on y va 4 fois par mois que ça va plus vite. Il faut en avoir conscience aussi.
Ouais, c'est clair, effectivement. Ok. C'est ton dernier mot, Marianne?
Ben, c'est mon dernier mot. Je souhaite vraiment aux auditeurs de trouver le psychologue qu'il leur faut. Voilà, ne perdez pas espoir et surtout, n'hésitez pas à venir chercher cet outil que je vous offre pour chercher votre psychologue. Voilà.
Parfait. Bon, alors Marianne, de toute façon, toi, tu es référencée sur la liste, l'annuaire, le répertoire de By Happiness Therapy. Tu es aussi présente sur Instagram. Tu peux nous dire quel
Oui.
est le nom de ton compte
Alors, mon
Instagram?
compte, c'est marianne.psy.
Ah bah oui, parfait.
Voilà.
Marianne.psy, très bien. Bah écoute, dans tous les cas, je diffuserai également le portrait de Marianne sur le feed By Happiness Therapy. Et vous n'hésitez pas à aller consulter effectivement sa fiche sur l'annuaire By Happiness Therapy. Alors qu'on arrive à la fin de cet épisode passionnant du sous-podcast de Je peux pas, j'ai thérapie, qui s'intitule Guérir ensemble, je voudrais remercier notre invitée, Marianne Milia de Malvoisine, pour sa participation éclairante et inspirante. Aujourd'hui, on a exploré vraiment les complexités, les nuances de la thérapie dans le contexte chrétien. L'idée étant de briser les mythes et les craintes hein, du fait de consulter un thérapeute et de montrer à quel point il y a une complémentarité entre la foi et le bien-être mental. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a fourni des outils et des perspectives pour naviguer dans votre propre parcours de guérison. À très bientôt!